Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a in a lullaby.
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien, aussi bien que moi. De toute façon, quand on est avec les contes, on ne peut que bien aller. Et aujourd'hui, j'ai été chercher très 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 loin dans les contes. Je vais vous présenter des contes de l'Égypte ancienne. On sait que depuis que le monde est monde, les êtres humains se racontent des histoires. Dans la grotte Chauvet, sans doute, que les peintres, tout en peignant ces magnifiques chevaux, ces félins, se racontaient des histoires. On sait que les aborigènes, qui ont environ 40 000 ans, se racontaient des histoires et ont inventé leur monde grâce aux contes et aux histoires. On sait que les contes étiologiques existent aussi depuis des dizaines de milliers d'années et qu'ils expliquent le monde. Eh bien, pour avoir connaissance de ces contes, il a fallu aussi qu'ils soient écrits. Par exemple, on peut remercier les frères Grimm, grâce à qui les contes ont été collectés et sont parvenus jusqu'à nous, sinon beaucoup auraient disparu. Mais il faut savoir que les Égyptiens furent parmi les premiers à utiliser les écritures et que nous avons retrouvé les plus anciennes histoires dans le secret des sépultures. Ensuite, le papyrus n'a pas tardé à se substituer au mur. C'était un support beaucoup plus commode, hein, il faut bien le dire. Et la littérature a perdu sa fonction religieuse. Ensuite, l'intention des scribes-écrivains a été de distraire et de séduire. On le sait, le conte a aussi cette fonction. Il était destiné à un public de lettrés et cette très ancienne littérature était en général sophistiquée et écrite dans un style très recherché. On sait aussi que ces contes égyptiens ont inspiré de nombreux auteurs par la suite. On sait par exemple que Jean de La Fontaine n'a rien inventé et qu'il a pris à peu près toutes ses histoires et tous les textes chez Ésope. Mais on sait aussi que les fabulistes grecs et latins ont écrit bien avant nos auteurs contemporains et ils ont puisé là-dedans, ils n'ont pas inventé grand-chose. Les anciens auteurs égyptiens savaient mettre en scène des animaux pour donner des leçons à leurs lecteurs et à leurs auditeurs. C'est ce que nous allons montrer dans les deux histoires qui suivent. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Bien installées? Dans l'immense désert qui borde à l'ouest la vallée du Nil, vivaient autrefois deux chacals. Une profonde et fidèle amitié les liait, au point qu'ils étaient inséparables. Jamais on n'en voyait un sans que bientôt apparaisse l'autre. Qu'il s'agisse d'aller boire ensemble au point d'eau, de trouver de la nourriture ou de s'abriter de la chaleur du jour dans l'ombre parfumée d'un épineux. Les deux compères partageaient tout, les bonnes comme les mauvaises choses, ce qui est la caractéristique essentielle de l'amitié, vous en conviendrez. Un matin, de fort bonne heure, alors qu'ils cherchaient de quoi se remplir l'estomac, la malchance voulut qu'au détour d'un gros rocher, il tombe sur un lion. Comme eux, ce dernier parcourait son territoire en quête de nourriture, il était affamé. À la place des deux chacals, tout autre animal aurait déguerpi au plus vite. Mais eux demeurèrent immobiles, comme s'ils n'avaient pas peur. Ce comportement courageux étonna beaucoup le lion. Au lieu de se jeter aussitôt sur eux pour les dévorer, il demanda « Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore pris la fuite? N'avez-vous pas vu que je suis à la chasse et que j'ai grand faim ?»« Oh, nous l'avons compris, Seigneur Lion. Mais après réflexion, nous avons jugé qu'il était plus sage de ne pas fuir. » L'étonnement du lion augmenta. « Tu prétends que votre attitude est sage. À mon avis, c'est tout le contraire. La sagesse, ce serait de courir le plus vite possible pour tenter de sauver votre vie. Pas d'attendre sans bouger que je vous mette en pièces. » Le deuxième chacal répondit À quoi nous servirait-il de courir? Tu es bien plus rapide que nous. Si nous avions tenté de fuir, tu nous aurais rattrapés de toute façon. La seule différence, c'est qu'à ce moment-là, tu aurais été fatigué par la poursuite. La belle affaire, coupa le lion qui ne voyait pas où il voulait en venir. Pour vous, ça n'aurait pas changé grand-chose. Là, tu te trompes, dit le chacal. Étant fatigué, tu aurais eu moins de force pour nous mettre à mort. Et notre trépas aurait été plus long et plus pénible, et nous aurions souffert plus longtemps. En réalité, reprit le premier chacal, nous préférons une mort rapide et sans souffrance. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas fuir pour subir notre triste sort alors que tu possèdes toutes tes forces. Le lion se dit à part lui que ce n'était pas si mal raisonné. Somme toute, les deux chacals avaient parlé de sagesse à juste titre. Il leur fit pourtant cette nouvelle remarque. « Vous auriez dû vous enfuir en partant chacun d'un côté. Je n'aurais pas pu courir après tous les deux. J'aurais rattrapé l'un de vous, mais l'autre aurait eu la vie sauve. »« Ah, c'est tout à fait impossible. Nous nous sommes promis d'être amis à la vie et à la mort. Ce qui fait que si l'un de nous périt, l'autre périra aussi, répondit le deuxième chacal. Oh, les serments d'amitié! Le lion montrait qu'il n'y croyait pas beaucoup. Connais-tu par hasard l'histoire du chat et du vautour? Demanda le premier chacal. Le lion fit signe que non. Elle montre que celui qui brise un serment d'amitié ne tarde pas à s'en trouver cruellement puni. Raconte-la-moi, dit le lion soudain piqué par la curiosité. Et le chacal commença ainsi. Tout en haut d'un palmier, un vautour avait bâti son nid. Dans ce nid, il avait déposé ses œufs, et de ses œufs était sortie toute une nichée de jolis oisillons. En bas de l'arbre, entre les racines, il y avait un trou assez grand et assez profond. C'est l'endroit que le chat avait choisi pour y abriter sa portée de chaton. L'ennui, c'est qu'un tel voisinage n'était commode ni pour l'un ni pour l'autre. Le chat craignait que s'il venait à s'éloigner, le vautour ne descende prendre ses enfants pour les donner en pâture à ses petits. Et de son côté, le vautour avait peur de quitter son nid, le chat risquait de profiter de son absence pour grimper à l'arbre et emporter les oisillons afin d'en nourrir sa progéniture. Du coup, ni l'un ni l'autre n'osaient plus aller à la chasse. Bientôt, en haut de l'arbre, comme dans la tanière entre les racines, la situation devint intenable. Les petits vautours et les petits chats ne cessaient de se plaindre et de gémir. Ils avaient terriblement faim. Alors le vautour descendit trouver le chat. « Nous ne pouvons pas continuer de la sorte, sinon nos petits vont tous mourir de faim. Qu'en dis-tu ? Si nous devenions amis ?»« Ce serait tout à fait raisonnable, dit le chat. Que me proposes-tu ? » « Signons un pacte d'amitié, dit le vautour. Promets que tu ne mangeras pas mes enfants et que tu ne les prendras pas pour nourrir les tiens. Et de mon côté, je ferai le même serment. » « Entendu, dit le chat. Et puisque nous en sommes à lier amitié, je te propose de garder un œil sur tes chatons pendant que tu seras à la chasse. Et de ton côté, tu feras de même pour mes oiselets quand je devrais m'absenter. » Le chat trouva l'arrangement excellent. Si bien qu'avec le vautour, ils se jurèrent solennellement assistance et amitié. Dès lors, le chat partait à la chasse le cœur tranquille, et quand il était revenu, le vautour en faisait autant. Les jours qui suivirent se passèrent sans accroc. L'oiseau et le félin respectaient le pacte à la lettre, et leur rejeton, bien nourri, grandissait à vue d'œil. Bientôt, il ne fut même plus utile de les surveiller. Les parents s'absentaient à leur guise, sans s'occuper de ce que faisait l'autre locataire du palmier. Mais un matin, alors que le vautour était parti en quête de nourriture, un des chatons sortit de la tanière pour se régaler d'un morceau de viande qu'on lui avait apporté. Du haut de l'arbre, un des jeunes vautours sentit l'odeur et ne put résister. Sautant du nid, il plana jusqu'au sol et s'empara du morceau par surprise. Seulement, comme il ne savait pas encore vraiment voler, il fut incapable de s'enfuir. Désireux de reprendre son repas, le jeune chat lui sauta dessus toute griffe dehors. Et l'oiseau laissa la vie dans la bagarre. Quand il revint au nid, le vautour demanda à ses enfants ce qu'il s'était passé, en lui raconta toute l'histoire. Sans vouloir admettre que son enfant avait mérité son triste sort parce qu'il avait commis la première faute, il décida de le venger. Il attendit que le chat parte en chasse, comme il le faisait tous les jours, descendit à la tanière, y prit les chatons, et sans aucun égard pour le serment solennel qu'il avait prêté, il les massacra impitoyablement. Après quoi, il remonta dans son aire et les donna à manger à ses enfants. À son retour, le chat ne vit pas ses petits. Très vite, les traces de sang lui firent comprendre ce qu'il s'était passé. « Misérable !» s'écria-t-il à l'adresse du vautour. « Tu as brisé le serment que nous avions fait d'être amis et de ne pas attaquer nos enfants. Ne sais-tu pas que les dieux punissent les parjures dans ton genre ? Puisse le sort que tu as infligé à mes malheureux chatons être bientôt celui de ta famille. » Puis tout en maudissant encore une fois le vautour, il se réfugia dans les fourrés pour donner libre cours à son chagrin. Le châtiment du rapace ne fut pas long à venir. Le chat était à peine parti que parut un chasseur. Il alluma un feu à l'ombre de l'arbre, puis sur les braises, il disposa une belle perdrix qu'il venait de tuer. Depuis le haut du palmier, le vautour surveillait le chasseur. Dès qu'il le vit s'éloigner en direction de la rivière voisine, il prit son essor et, après un vol plané impeccable, s'empara de la perdrix. Sans plus traîner, il remonta au nid avec son butin. Ce qu'il n'avait pas remarqué dans sa précipitation, c'est que des charbons ardents s'étaient collés à la viande. Ces braises mirent feu au plumage des petits et au nid. Le vautour n'y put rien. En un instant, toute sa descendance périt brûlée vive sous ses yeux. En entendant les cris de désespoir que poussait l'oiseau, le chat revint près de l'arbre. « Ne te lamente pas, vautour. Tu as juste eu ce que tu méritais pour avoir brisé notre pacte en te parjurant. Je t'avais prévenu, le ciel punit sévèrement ceux qui ne respectent pas leurs paroles. » Et voilà l'histoire du chat et du vautour, conclut le chacal. Elle enseigne qu'un jour ou l'autre, le parjure finit par recevoir ce qu'il mérite et qu'il n'échappe jamais à un juste châtiment. Le lion l'avait écouté jusqu'au bout, avec beaucoup d'attention. Il hocha la tête pour montrer qu'il était d'accord. « Tu comprends à présent, lui demanda alors le second chacal, pourquoi l'un de nous deux n'a pas cherché à se sauver aux dépens de l'autre ?»« Je le comprends et je l'approuve. En réalité, non seulement vous êtes deux sages, mais vous avez manifesté une fidélité et un sens de l'honneur qui m'impressionnent. Allez, je vous accorde la vie sauve pour cette fois et pour toutes les autres qui pourraient survenir. Je ne vous ferai jamais de mal. » Sur quoi le lion s'éloigna avec majesté, fier qu'il était de régner sur d'aussi remarquables sujets. Dans l'immense désert qui borde le Nil à l'ouest vivait autrefois un lion. C'était un animal superbe et généreux, capable de terrasser d'un seul coup de patte tous les autres habitants de la contrée, si bien qu'il était craint et respecté, et que son rugissement les faisait tous frémir de peur, petits et grands. Un jour qu'il arpentait son immense territoire, il tomba par hasard sur la panthère. Elle était dans un si piètre état qu'il ne manqua pas de s'étonner. « Que t'est-il arrivé ? Je vois que ton pelage est arraché par plaques, que ta peau est meurtrie et blessée. Dis-moi, qui t'a ainsi maltraité ?»« C'est l'homme, » répondit la panthère sur un ton pitoyable. « L'homme ? C'est quoi ça, l'homme ? C'est la créature la plus terrible et la plus rusée qui soit. Suis mon conseil, évite de te trouver sur sa route. Plutôt que de tomber en son pouvoir, garde précieusement tes distances. » « Quoi ? S'écria le lion que la colère envahissait. « Cet homme serait capable de me vaincre, mais c'est tout bonnement impossible. Non content de ne pas le fuir, je vais de ce pas me lancer à sa recherche. Et quand je le trouverai, nous nous battrons. On verra bien qui de nous deux est le plus fort. » La panthère le connaissait assez bien pour savoir que rien ne pourrait le faire changer d'avis. Aussi, sans rien ajouter d'autre, elle le salua alors qu'il se mettait en quête de l'homme. Le lion ne tarda pas à rencontrer le cheval et l'âne. Ils avaient chacun un mors qui leur barrait la bouche et une bride qui leur serrait le cou. Ils couraient de toute la vitesse de leurs jambes, entraînant derrière eux une grande charrette qui soulevait au passage des trombes de poussière. Le lion se campa au milieu du chemin et leur fit signe de s'arrêter. « Qui a attaché derrière vous cet objet qui paraît tellement pénible à traîner ? Et pourquoi courez-vous comme des désespérés au lieu d'attendre à l'ombre qu'il fasse moins chaud ?»« C'est parce que nous sommes en fuite, » dit le cheval. « En fuite ? Mais que fuyez-vous ? Celui qui a fait de nous ses esclaves, l'homme, il nous a attachés à cette charrette pour nous faire tirer de lourdes charges. » Mais nous sommes partis en emportant la charrette, dit l'âne, et nous nous pressons pour éviter qu'il ne nous rattrape. C'est pour cela que tu nous vois courir. L'homme est donc plus puissant que vous deux réunis, s'écria le lion très surpris. Plus puissant et surtout plus malin et plus rusé. Toi-même, prends garde de ne jamais tomber en son pouvoir. Tout lion que tu es, l'homme te traiterait comme il nous traite et ferait de toi son serviteur. Même s'il fut impressionné par ce qu'il entendait, le lion ne se laissa pas paraître. Il secoua fièrement la tête, histoire de bien montrer qu'il ne craignait rien, et salua le cheval et l'âne, qui reprirent aussitôt leur galop effréné. De son côté, le lion se mit en quête de l'homme, avec encore plus d'ardeur qu'auparavant. Il lui tardait de le trouver pour lui faire comprendre lequel des deux était le plus fort. Un peu plus loin, le hasard mit sur sa route le taureau et la vache. Tous deux avaient les cornes coupées, le nez percé et muni d'un gros anneau, la tête surmontée d'un joug pesant qui leur faisait plier le cou. Le lion leur demanda qui les avait réduits à une position aussi humiliante. « C'est l'homme, » répondit le taureau et la vache, « l'homme la plus rusée des créatures et la plus redoutable. » Ce fut ensuite l'ours que le lion rencontra. Il n'avait plus de griffes aux pattes et ses grandes dents d'ordinaire si redoutables avaient disparu de sa gueule. Le lion fut peiné de le voir ainsi réduit à l'impuissance, lui qui était un animal généralement craint et respecté. Il demanda « Est-ce encore une fois l'homme qui t'a mis dans ce si triste état ?»« Hélas !» répliqua l'ours, « tu n'es dit que trop vrai, c'est bien lui qui a fait de moi l'infirme que tu vois. J'ai commis la bêtise de me vanter de ma force auprès de lui. » Il a paru impressionné et m'a offert de la nourriture que sans méfiance j'ai acceptée. Elle contenait un poison qui m'a vite plongé dans un profond sommeil. À mon réveil, l'homme n'était plus là, mes dents et mes griffes non plus. Et me voici par sa faute aussi vulnérable qu'un ourson, tout juste bon à téter sa mère. En l'entendant, le lion ne put retenir un rugissement de colère. L'humiliation infligée à l'ours était un peu celle de tous les animaux. Mais l'homme ne perdait rien pour attendre, qu'il vienne à tomber sous la griffe, et il lui ferait payer cher toutes les misères qu'il avait subies, lui et la panthère, le cheval, l'âne, le taureau et la vache. À peine s'était-il remis en route que le lion se trouva nez à nez avec un autre lion. Le malchanceux avait une patte avant coincée entre les deux parties d'un arbre et agitait vainement les trois autres pour essayer de se libérer. « Mais que t'est-il arrivé, mon frère ? Comment t'es-tu fait prendre au piège ?»« C'est l'homme, » répondit le second lion. « Si d'aventure tu viens à croiser son chemin, fuis aussi vite et aussi loin que tu le pourras et surtout n'écoute pas ce qu'il te dira, ne crois rien de ce qu'il te promettra. » « Vois-moi, malheureux que je suis, il m'a dit qu'il possédait le secret de la jeunesse éternelle. J'ai commis l'erreur de le croire et de me fier à lui. Je l'ai suivi jusqu'à cet arbre qu'il a fendu en deux avec sa hache, et puis il m'a dit « Si tu veux ignorer à tout jamais les tourments de l'âge et de la vieillesse, glisse ta patte au milieu du tronc. Je l'ai écouté, fou que j'étais. » Il a vivement retiré sa hache et le tronc s'est refermé sur ma patte. Là-dessus, il m'a ri au nez quand je l'ai supplié de me délivrer et il s'en est allé. Le récit de son congénère avait mis le lion dans une rage épouvantable. Il rugit si fort et si furieusement que tous les habitants des alentours, les grands et les petits, en eurent des frissons de la queue à la tête. « Mon frère, ajouta-t-il, j'en fais le serment. L'homme paiera pour le mal qu'il t'a fait. Tu seras vengé, je te le promets. » Et il continua sa quête à travers monts et collines, plaines et vallées. Or il advint que sans même y prendre garde, il posa sa grosse patte sur une minuscule souris, pas plus épaisse qu'une sauterelle. « Ne me dévore pas, seigneur lion. Vois comme je suis petite, me gober serait comme avaler du vent. Tu n'en serais ni plus ni moins rassasié. Si en revanche tu m'accordes la vie sauve, tu feras une bonne action, et un jour ou l'autre, je pourrai te rendre la pareille. » « Toi, répliqua le lion, qui n'est pas plus grosse qu'un ver de terre, comment pourrais-tu faire quoi que ce soit pour moi qui suis le plus fort entre tous les animaux ? Allons, la peur te fait dire des bêtises. » « Pas plus qu'un autre, tu ne sais de quoi demain sera fait, dit la souris. Si un jour tu as besoin de moi, je serai là pour t'aider, tu peux le croire, à condition bien sûr que tu me laisses la vie sauve. » Le lion se contenta de hausser les épaules avant de répliquer « Je te trouve bien prétentieuse de penser qu'un jour quelqu'un comme moi puisse avoir besoin de quelqu'un comme toi. Mais d'un autre côté, c'est vrai que te manger ne m'avancerait à rien. Allez, file, tu es libre, et rappelle-toi que tu dois la vie à ma générosité. Je saurai m'en souvenir, dit la souris. De ton côté, n'hésite pas à m'appeler si tu te trouves dans le besoin. Le lion, que la prétention de la souris amusait, partit d'un grand éclat de rire en la voyant filer au plus vite avant de disparaître dans un trou. Or son rire parvint aux oreilles de l'homme qui se trouvait dans les parages. Aussitôt il entreprit de construire un piège. Au pied d'un grand palmier qui avait poussé, il creusa une fosse profonde qu'il recouvrit de branches et de feuilles pour qu'elle ne se voie pas. Puis il grimpa dans l'arbre et appela le lion. Dès qu'il l'entendit, le lion se précipita, tout impatient qu'il était de se mesurer à l'homme. Il ne vit pas le trou et tomba dedans. L'homme descendit de l'arbre, lança un filet qui emprisonna étroitement le lion au point de l'empêcher de bouger une patte. L'animal eut beau se fâcher, gronder et rugir le plus fort qu'il le put. « Tu voulais te mesurer à moi pour savoir lequel est le plus fort, dit-il. À présent, tu as la réponse. Et s'il te reste encore un doute, je te laisse jusqu'à demain matin pour y réfléchir. À ce moment-là, je reviendrai. » Et je te tuerai. » Sur quoi, tout content de soi, l'homme tourna les talons et s'en fut en riant. Ainsi pris au piège, le lion dut finir par admettre qu'il était impuissant, que malgré sa force et sa férocité, il n'avait plus rien d'autre à faire qu'attendre le matin en même temps que la mort. Il ferma les yeux, tristement. Où était sa fierté, son orgueil, sa superbe? Lui que les animaux considéraient comme un roi allait périr misérablement au fond d'un trou, pris dans un misérable filet comme un petit oiseau ou un poisson. Il en était là de ses amères réflexions quand il sentit un infime mouvement à proximité. Ouvrant les yeux, il vit la toute petite souris qui le considérait de ses yeux ronds. « Tu me reconnais ?»« Oui. » »« Alors tu peux te féliciter de ta bonne action à mon égard. » Car je vais sans tarder te rendre le bien que tu m'as fait. Reconnais que je n'aurais pas mis longtemps à tenir ma promesse de te venir en aide. Et à l'avenir, n'oublie jamais que tout grand et fort que tu es, tu dois la vie à quelqu'un de faible et de tout petit. » Sur quoi la souris se mit à ronger l'une après l'autre les mailles du filet. Bientôt le lion put bouger, faire jouer ses muscles puissants et tendre ses pattes et enfin bondir hors du trou. Alors après avoir remercié la petite souris comme elle le méritait, il reprit le chemin du désert sans plus tarder et par la suite prit grand soin d'éviter toute nouvelle rencontre avec l'homme. What a wonderful world. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Merci beaucoup à François, à la technique et à Clara. Je vous dis à bientôt le mercredi et le samedi à 16h et en attendant... Racontez-vous des histoires.